Bienvenue sur Follow the Bible Ministries. Aujourd'hui, nous allons étudier quelques versets de la Bible, confiant qu'ils affermiront votre foi en Dieu et en sa sainte parole. Et maintenant, passons à notre étude.
Nous allons maintenant reprendre notre étude biblique à partir de là où nous nous étions arrêtés la dernière fois.
Ces versets, comme d'autres, semblent constituer une formule pour les saluts. Nous complisions les actions mentionnées ci-dessus et Dieu nous sauve. Mais encore une fois, suivre ces actions relève des œuvres que nous accomplissions. Obéir à ces versets, ce sont des actes de la loi. Et la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les actes de la loi. La solution se trouve dans un examen plus attentif de ces versets et d'autres similaires. En les examinant attentivement à la lumière du reste de la Bible, nous constatons que nous ne pouvons pas les accomplir suffisamment pour les saluts. Dieu dit que si tu crois en ton cœur, la condition est que nous croyons en notre cœur. Ce commandement peut sembler facile à suivre. Nous pensons qu'il suffit d'être sincère dans notre foi. Dans la Bible, Dieu utilise fréquemment le mot « cœur » pour désigner le sens même de l'homme, car le cœur est essentiel au fonctionnement du corps humain. La Bible indique que notre cœur est très loin de Dieu jusqu'au salut. Par exemple, nous lisons dans les livres de Jérémie, au chapitre 17, à partir du verset 9, « Le cœur est tortueux, plus que tout, et désespérément mauvais. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve le rein pour rendre à chacun selon sa voie, selon les fruits de ses actions. » Ceci est un langage négatif, car Dieu voit le cœur, le sens même de l'homme. À l'extérieur, nous pouvons paraître décents et moraux aux yeux de notre collègue. Mais Dieu voit le cœur, l'essence même de l'homme, et il perçoit nos pensées et intentions pécheresses. Un verset comme celui-ci est difficile à comprendre et à accepter, mais la Bible est la parole de Dieu. Elle est toujours vraie et digne de confiance. Ceci souligne une fois de plus notre besoin d'un sauveur. Un autre passage parle du cœur, ou de la nature même l'homme qui se rebelle contre Dieu, avant que le salut ne soit trouvé dans Marc chapitre 7, à partir du verset 20. Le Seigneur Jésus parle et répond à certaines questions sur l'origine du péché en nous. Nous lisons, il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souillent, car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent des mauvaises pensées, les adultéresses, les impurités, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la tromperie, la débauche, le mauvais zèle, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, essuyant l'homme. Jésus parle de ce qui nous suit, nous rend impurs ou souillés aux yeux de Dieu. Jésus dit cela vient du cœur de l'homme. Autrement dit, Dieu affirme que le péché est inhérent à notre nature, qu'il provient de l'intérieur de nous, comme le dit Jésus. Puis Jésus énumère de nombreux péchés. Dieu dit que telle est notre nature avant les saluts, nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Mais au contraire, nous commettons des actes pécheux. Jésus développe ce sujet dans l'évangile selon Luc, au chapitre 6, à partir du verset 43. Nous lisons. Car un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. On reconnaît chaque arbre à ses fruits. On ne cuit pas de figues sur des épines, ni des raisins sur des ronces. L'homme bon du bon trésor de son cœur tire de bonnes choses, et l'homme mauvais du mauvais trésor de son cœur tire de mauvaises choses, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ici Jésus compare l'homme à un arbre. Si Dieu nous a sauvés, nous sommes comparés à un bon arbre dans ces passages. En revanche, si nous ne sommes pas encore sauvés, Dieu nous compare à un arbre pourri. Jésus souligne ensuite que le bon fruit provient de bons arbres et que le mauvais fruit provient des arbres pourris. Mais Jésus va plus loin. Jésus dit « Car un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. » C'est une affirmation importante. Avant le salut, nous sommes comparables à un arbre pourri, car nous avons suivi notre propre voie et non la loi de Dieu. Et Jésus dit « Un arbre pourri ne porte pas de bons fruits. » Avant le salut, nous ne portons pas de bons fruits. Il est difficile de le croire. Mais le problème vient de notre cœur, de notre nature profonde. Dieu dit qu'avant le salut, notre cœur, notre nature même, est en rébellion contre lui. Et parce que notre cœur est en rébellion, nous ne pouvons porter de bons fruits. Tout comme un arbre corrompu ne peut en porter. Pour emporter de bons fruits ou accomplir de bonnes actions, il faut avoir un cœur pur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accomplir ce commandement. Romains chapitre 10 et verset 9. Avant que Dieu ne nous sauve, nous lisons dans Romains chapitre 10 et verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Avant le salut, notre cœur est contraire à Dieu, et nous ne pouvons accomplir le commandement de croire de ton cœur, car notre cœur est encore contre Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans l'évangile de Jean chapitre 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Nous ne pouvons nous approcher de Dieu que lorsque qu'il nous attire à lui, comme ce mot est traduit dans d'autres versets. Mais lorsque Dieu nous sauve, il nous donne une nature nouvelle. Il fait de nous une nouvelle créature en Jésus-Christ, comme nous le lisons dans les deuxièmes épîtres aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature, car l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, habite en nous et nous guide. Nous lisons que l'Esprit de Dieu habite en les vrais croyants dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 9. Nous lisons « Pour moi, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit. Si de moi, l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Être dans les chairs, comme le dit ces versets, c'est être gouverné par les désirs de notre corps plutôt que par ceux de Dieu, tels qu'ils sont consignés dans la Bible. Être dans l'Esprit, c'est être guidé par l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même. Et Dieu nous guide par sa parole, la Bible, comme nous venons de le lire dans l'Épître aux Romains chapitre 8, verset 9. Dieu dit que si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, qui est un autre nom pour Dieu lui-même, alors nous ne lui appartenons pas. Ceci indique que lorsque nous appartions à Dieu, nous avons l'Esprit du Christ, ou Dieu lui-même, qui habite en nous. Et Dieu habite en nous et il nous guide lorsqu'il nous sauve. Revenons maintenant à notre discussion précédente sur le cœur de l'homme. La Bible utilise l'image du cœur de l'homme pour désigner son essence même. Romains chapitre 10, verset 9, dit que nous devons croire en notre cœur pour être sauvés. Mais le problème est que notre cœur, notre essence même, est corrompu avant le salut aux yeux de Dieu. Nous allons examiner un autre passage qui décrit l'évaluation par Dieu de notre cœur ou de notre nature avant le salut. Ce passage se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, à partir du verset 18. Nous lisons « Car la colère de Dieu se révèle du ciel, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté en eux, Dieu les leur ayant révélé. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis la création du monde, étant perçus par ses œuvres. Ainsi, ils sont sans excuse, car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu ni né lui. On rendit grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur insensé a été obscurci. » Ce passage est plutôt négatif, et c'est parce que le péché est très offensant par un Dieu saint. Ces versets contiennent beaucoup d'informations, mais à la fin, nous lisons qu'avant les solides, Dieu dit que notre cœur insensé a été obscurci. C'est parce que, sans Dieu pour nous guider, nous nous égarons. Mais la Bible nous encourage à prier Dieu et à lui demander de nous donner un cœur pur. Par exemple, on peut lire dans les livres des psaumes, chapitre 51, verset 10. Le psalmiste, qui n'est autre que le roi David, demande à Dieu de lui donner un cœur pur, c'est-à-dire d'être sauvé et guidé par agir et penser selon la loi de Dieu, la Bible. Dès lors, une question se pose. Si l'obéissance à ces versets et à ses commandés ne nous sauve pas, comment pouvons-nous être sauvés? La réponse, c'est que Dieu sauve. Dieu parle de son salut en différentes parties de la Bible. Parfois, Dieu utilise un langage parabolique pour expliquer cette vérité. Le langage parabolique est un langage qui utilise des termes terrestres pour exposer des vérités célestes. Nous allons examiner un passage du livre d'Ésaïe, un livre important de l'Ancien Testament. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 36, à partir du verset 24. « Car je vous prendrai du monde et des nations, je vous rassemblerai de tout le pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je reprendrai sur vous une eau pure, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivrez mes lois. Vous observerez mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. » Ceci est un langage terrestre qui décrit le plan de Dieu. L'une des choses que nous remarquons particulièrement dans ces passages, c'est que Dieu prend toutes les décisions. Nous lisons souvent que Dieu dit « Je ferai ceci » ou « Je ferai cela ». Dieu dit qu'il reprendra sur vous une eau pure. Ceci rejoint les études précédentes où nous avons parlé du baptême d'eau par opposition au baptême du Saint-Esprit que Dieu administre lorsqu'il nous sauve. L'eau pure que Dieu répand sur nous n'est pas l'eau de la terre avec laquelle nous nous lavons. Cette image fait plutôt référence au pardon de nos péchés que Dieu opère lorsqu'il nous sauve. Il s'agit d'une action divine inhérente à notre nature. et non d'inaction que nous accomplissions par l'eau terrestre. Dieu parle de la manière dont il pardonne nos péchés lors du salut dans les livres dit Tite, au chapitre 3 à partir du verset 3. Nous lisons. « Car aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, enservis des diverses convoitises et les plaisirs, vivant dans la méchanceté et l'envie, odiés et nous haïssons les uns les autres. Mais ensuite, la bonté et l'amour de Dieu notre Sauveur envers les hommes ont été manifestés. Non à cause des œuvres de justice que nous saurions accomplir, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ceci parle de l'action de Dieu pour nous sauver. Dieu utilise l'expression « lavement de la génération » qui ne désigne ni une action avec de l'eau de la terre, ni une action que nous accomplissions. Il s'agit plutôt du salut que Dieu opère en nous. Retournons au livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, et relisons les parties du verset 26. Dans ces passages, Dieu parle à la première personne. Nous lisons. « Je vous donnerai aussi un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je vous ferai marcher selon mes statuts. Vous observerez mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. » Dieu dit qu'il nous donnera un cœur nouveau, une attire nouvelle. Cela se produit que Dieu habite en nous, nous guide sur ses voies, sur le droit chemin. Dieu dit qu'il mettra en nous un esprit nouveau. Cela pourrait faire référence à son esprit nouveau pour nous, qui vient habiter en nous lors de notre salut. Et Dieu dit ensuite qu'il nous fera marcher selon ses statuts et observer ses ordonnances. Dieu œuvre en nous pour que nous observions ses lois, ce qui est la voie bénie de la vie. Une fois que Dieu nous a donné un cœur nouveau grâce au salut, alors nous pouvons croire en notre cœur. Alors, nous sommes capables d'obéir au commandement de croire en notre cœur, comme nous le lisons dans l'Épître en Romains chapitre 10. Lisons-le à nouveau. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ceci est un commandement que Dieu nous donne. Mais notre cœur est en rébellion contre Dieu, et nous ne pouvons accomplir ses commandements. C'est pourquoi Dieu dit que le salut ne vient ni des œuvres de la loi, ni de nos propres œuvres. En revanche, lorsqu'il nous sauve, Dieu nous donne un cœur nouveau, une attire nouvelle qui aime Dieu et lui obéit. Dieu nous donne un cœur qui n'est plus corrompu, ni en rébellion contre lui. Et nous sommes capables de croire en Dieu de tout notre cœur. Et nous serons sauvés de la colère de Dieu qui s'abattra au dernier jour. Car nous sommes incapables d'accomplir ce commandement pour être sauvés. Dieu établit les principes que le salut est entièrement dû à sa grâce et à sa miséricorde, et que Dieu accomplit tous les travaux nécessaires pour nous sauver. Ainsi, Dieu accomplit lui-même ses commandements en nous donnant un cœur nouveau et en mettant son esprit en nous, comme nous le lisons dans l'Ézéchiel chapitre 36. Une fois que Dieu nous a sauvés, nous pouvons obéir ses commandements, et notre obéissance devient une preuve de son salut. Revenons à Marc chapitre 1 et au commandement de Jésus au verset 15. « Repentez-vous et croyez. » Nous lisons dans ces versets que Jésus dit. Et il dit, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Puisque nous sommes incapables d'accomplir ce commandement par nous-mêmes, Dieu l'accomplit en nous par les solides. Quand Dieu nous sauve, la Bible dit qu'il nous donne aussi la repentance. Ainsi, au lieu que la repentance soit une condition à remplir pour être sauvé, Dieu nous a sauvés et œuvre en nous pour que nous nous repentions et fassions sa volonté. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 36, verset 27, nous lisons que Dieu dit « Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai marcher selon mes statuts. Vous observez mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. » Quand Dieu nous appelle à suivre ses statuts ou ses lois, c'est la repentance. Nous lisons dans d'autres versets que Dieu nous donne la repentance après les saluts. Par exemple, nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 31, à propos du Seigneur Jésus. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, afin d'accorder à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ce verset dit que le Seigneur Jésus accorde la repentance à Israël par le salut. Nous devenons membres d'Israël éternel. Et Dieu lui-même nous donne la repentance. Dieu œuvre en nous pour que nous nous repentions et fassions sa volonté. Nous lisons que Dieu nous donne la repentance après le salut dans le livre des Actes au chapitre 11. Ici, l'apôtre Pierre relate son ministère auprès d'un capitaine de l'armée romaine nommé Cornelius. Au verset 18, Pierre a terminé son récit devant ses amis croyants qui se réjouissent de ce que Dieu ait sauvé un païen, un non-juif. On lit alors, Actes 11 et 18. À ce moment, ils garderaient le silence, glorifieront Dieu, disant, Dieu a donc accordé aussi aux païens leur repentance qui conduit à la vie. Le mot accordé, c'est traduit généralement par « donner ». Ces versets confirment que Dieu accorde la repentance. Et Dieu a accompli cela en guidant les vrais croyants à obéir à la Bible. Nous lisons également dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, que notre foi en Jésus-Christ est le fruit du salut que Dieu nous offre. Dans ce passage, Dieu nous donne ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Et le fruit désigne les bonnes œuvres qui se manifestent en nous, résultant de l'action de Dieu en nous pour faire sa volonté. Nous lisons dans l'Épître aux Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ces attributs énumérés sont tous ceux qui se manifestent en nous et dans nos actions une fois que Dieu nous a sauvés. Par exemple, nous avons un amour biblique pour Dieu et pour notre prochain. Il y a une joie à savoir que le Seigneur Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Nous lisons aussi qu'une partie des fruits de l'œuvre de Dieu en nous lors du salut est la foi. Ce fruit du salut est une foi ou une confiance plus grande en le Seigneur Jésus et en son plan parfait. Dieu nous guide pour grandir en grâce, un amour et une joie plus grand, et pour développer tous ses attributs, y compris la foi en Seigneur Jésus. L'humanité a été créée à l'image de Dieu, comme nous le lisons dans la Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, nous avons lu, « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, il nous ordonne de croire et d'être sauvés. Cependant, parce que nous nous sommes éloignés de Dieu, nous ne sommes plus capables d'obéir à ses commandements suffisamment pour être sauvés. Par conséquent, la Bible déclare que le salut est un don de la grâce et la miséricorde de Dieu. Dieu accomplit tous les travaux nécessaires pour nous sauver. Comme le priate et le collecteur d'impôts, d'autres fois dans Luc chapitre 18, verset 13, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur, puissions-nous implorer Dieu pour son merveilleux salut ?» Voici tout le temps dont nous disposons pour notre étude d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous poursuivrons notre examen de l'Évangile selon Marc. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un autre verset qui parle de la miséricorde de Dieu dans le salut se trouve dans Isaïe, chapitre 54, verset 8. Nous lisons. Isaïe 54, 8. Dans un moment de colère, j'étais caché mon visage, mais avec une bonté éternelle, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, ton Rédempteur. La Bible nous encourage à mettre en prise à prier Dieu pour sa miséricorde. De nombreux versets parlent de la miséricorde de Dieu pour sauver ceux qui s'approchent humblement de lui en quête de salut. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous poursuivrons notre cours de l'Évangile selon Marc. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Nous vous remercions de votre écoute. Retrouvez-nous pour notre prochaine émission. Notre adresse est la suivante. Follow the Bible Ministries, P.O. Box 813, Weimar, CA 95736, USA. Notre site web est followthebibleministries.com. Écrivez-nous par courriel à followthebibleministries@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.